Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'accueillir Alexandre Moati, voilà, après avoir lu ce livre, que vraiment je vous recommande. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'entendre parler de cet ouvrage, bien sûr, « Alter Science, posture, dogme, idéologie ». Je l'ai trouvé passionnant, et c'est ce qui m'a donné l'idée de vous inviter aujourd'hui. Pourquoi passionnant ? Parce que nous avons les trois premières lignes qui disent les choses suivantes. Pourquoi et comment des personnes formées à la science se mettent-elles à un certain âge de leur vie à prendre une attitude violemment opposée à la science qui leur est contemporaine ? Voilà. Alors ça m'a vraiment interpellé, parce que j'ai eu moi-même ce problème, étant astronome. Vous avez peut-être d'ailleurs ce souvenir vous-même, vous avez peut-être lu, certains d'entre vous, le premier « Que sais-je ?» consacré à l'astrologie, qui avait été écrit par un astronome, qui a été remplacé une vingtaine ou une trentaine d'années après par un autre ouvrage intitulé de la même manière, parce que c'est thématique dans les ouvrages du PUF, Astrologie, mais qui a été écrit par qui ? Eh bien, par une chercheuse, Suzelle Fuseau-Bretsch, qui était biologiste de formation, qui avait un laboratoire de biologie à l'université d'Orsay, et qui avait, tardivement, parce qu'elle était, je crois, déjà à la retraite, elle avait pris une posture vraiment violemment en faveur de l'astrologie, et ce livre était un livre pro-astrologie. C'était un Que sais-je, donc édité par les PUF. Voilà, la supercherie, entre guillemets, a été évidemment vite comprise, mais il a fallu au moins une dizaine d'années avant que ce livre soit retiré, et qu'on me demande à Philippe Zarka et moi-même de réécrire cet ouvrage. Voilà, donc vous voyez que... Mais pendant très longtemps... Ayant ce loup dans la bergerie, eh bien, on avait des difficultés dans tous les débats. Il y avait toujours un astrologue qui venait me dire « Mais monsieur, vous avez quelqu'un du CNRS qui dit que... » Voilà, donc le problème, il est là. Alors, Alexandre Moati a écrit donc ce livre qui m'a vraiment interpellé. Il est ingénieur en chef des mines et chercheur associé à l'histoire des sciences à Paris 7. Et on peut deviner que son thème favori, c'est concerne les oppositions radicales à la science qu'il a nommé, donc lui-même, qui a forgé ce terme que je trouve très adéquat, alter-science. Et il s'intéresse aussi à l'histoire des sciences, en particulier l'histoire des sciences en France au début du 19e siècle, l'époque où on voit fleurir donc ce nouveau profil qu'on peut appeler ingénieur savant. Et il a aussi donc édité donc deux ouvrages, celui-ci bien sûr, et un autre qui nous concerne également, qui s'intitule « Les indispensables astronomiques et astrophysiques pour tous », les deux ouvrages étant édités dans cette collection, enfin c'est chez ce prestigieux éditeur qui est Odile Jacob, donc collection Science. Voilà, donc merci d'être venu nous parler de ce sujet, donc vous avez une heure pour nous en parler, merci.
Merci Monsieur Kuhn de cette présentation, merci d'être venu et puis de m'avoir invité, puisque j'ai déjà été assisté à plusieurs conférences ici, c'est la première fois que je suis de l'autre côté là. Donc j'ai prévu de vous parler de deux sujets, alors j'ai 100 slides, c'est un peu beaucoup, donc je prendrai le parti, je pense, d'aller assez vite en fait, parce que j'essaierai de faire à la fois les créationnismes, je vous présenterai différentes choses là, et puis une des deux cosmogonies, celle d'Herbiger, parce qu'elle a des relents aujourd'hui assez amusants. Je pense que pour Velikovsky, je ne suis pas sûr qu'on aura le temps. Mais enfin, bon, voilà. Alors, parfois, je passerai rapidement sur certaines slides. Ne m'en veuillez pas. N'ayez pas l'impression de rater des choses. On pourra en reparler. Voilà. Alors, donc, mes travaux sur l'alter-science, c'est des cours que j'ai donnés à l'École des hautes études en sciences sociales. Certains assistaient à ces cours. Une construction théorisée et virulente d'opposition à la science contemporaine. Je vous dis dans quel cadre j'ai travaillé là-dessus, et notamment une opposition aux théories scientifiques, hein, qu'on voit, des oppositions à la relativité, c'est ce sujet qui m'a amené à ça d'ailleurs, puisque j'ai étudié les ennemis de la relativité de 1905 à 2005, l'opposition à la théorie darwinienne, et on a affaire à une vitupération, hein, parfois une invocation de la théorie du complot, une instrumentalisation de la science à des fins idéologiques ou religieuses, c'est ce que j'ai appelé, et religieuses parfois, c'est ce que j'ai appelé l'alter-science, comme l'a rappelé Daniel Kuhn. Quelques caractéristiques comme ça, c'est vraiment un prologue que je fais là, avant de rentrer dans les créationnismes. Ce qui frappe aussi, je dis pas, vous pouvez trouver ça dans d'autres mouvements comme l'ésotérisme, c'est intéressant d'avoir ça comme marqueur. J'ai mis avec des majuscules exprès, comme mettent souvent les interscientifiques. D'ailleurs, rejet du signe et désir du tout. Rejet du signe, ça veut dire une certaine forme contre l'abstraction mathématique. On va avoir des gens qui sont contre l'abstraction mathématique, contre toute notion de théorie, contre ce qu'on peut appeler le raisonnement logico-déductif, et puis, à partir des années 60, contre la modélisation informatique, hein, et en revanche, contre l'abstraction mathématique, contre le raisonnement déductif, ça va être pour l'empirisme, pour un fait est un fait, la primauté donnée au fait contre la théorie, hein. Bon, évidemment, c'est pas forcément faux, la position justifie, mais c'est cette invocation systématique de l'empire du fait qui est intéressante. Une invocation permanente du bon sens aussi, il y a que le bon sens qui doit nous guider, etc. Bon, vous savez comme moi, vous connaissez un peu la physique, elle n'est pas vraiment toujours de bon sens, et la théorie darwinienne aussi peut choquer notre entendement parfois. Donc le bon sens n'est pas forcément ce qui conseille le mieux dans la science contemporaine. Et vous allez avoir aussi plein de diatribes contre la spécialisation de la science. Hein, c'est des gens qui veulent ce que j'appelle le désir du tout, c'est-à-dire une science unifiée. Encore une fois, vous avez ça dans l'ésotérisme, d'avoir une science unifiée. Mais là, justement, dans l'alterscience, ça qui est intéressant, de voir l'ensemble de ces caractéristiques. Hein, une science unifiée, ce qu'on peut appeler le holisme, hein, des philosophies du tout, le holos. Contre la spécialisation de la science, contre les institutions de la science qui caractérisent cette spécialisation. Voilà. Et puis, paradoxalement aussi, c'est parfois aussi des scientifiques, comme l'a rappelé M. Kuhnt, donc un mimétisme de la science, il y a une ambivalence, fascination-rejet. Alors, je vais vous dire, par exemple, vis-à-vis de l'Académie des sciences ou d'autres institutions, et c'est le paradoxe de Groucho-Marx, je ne voudrais jamais faire partie de ce club, d'un club qui m'accepterait comme membre, si vous voulez. Donc, parce que, je l'explique un petit peu, c'est-à-dire qu'ils tapent dessus, c'est parce que je tape dessus qu'ils ne me prennent pas. Enfin, il y a tout un raisonnement circulaire. Et on va trouver un mimétisme de la science, je vais vous montrer ça à travers quelques exemples en créationnisme astronomique, notamment. Voilà. Bien évidemment, un souci effréné de reconnaissance, on l'a tous, mais peut-être pas effréné à ce point-là. Utilisation des relations mondaines aussi contre c'est des gens qui se soumettent pas du tout au peer reviewing, c'est-à-dire à l'évaluation par les pairs qu'on trouve dans le domaine scientifique. Voilà. Il y a une négation de la démarche scientifique, je vous l'illustrerai. Donc l'exemple des mouvements étudiés, c'est mes deux premières parties. Il y a quatre parties dans mon livre, il y a une autre partie plus historique et puis une autre partie sur des idéologies contemporaines. Je vous détaille que ces deux premières parties. La première partie, c'est les ingénieurs en réaction contre la physique moderne. Je vous avais dit que j'étais entré dans ce sujet par les opposants à la relativité. Bon, s'opposer à la relativité en 1920, à la limite, on peut comprendre. S'y opposer en 2005, alors que c'est une des théories les mieux vérifiées, bon, qui pourra peut-être être remplacée, mais c'est déjà moins compréhensible. Donc il y a tout un cercle de physique là qui est fait d'ingénieurs, le cercle de physique Alexandre Dufour, l'affaire des avions renifleurs, j'ai retravaillé là-dessus, l'énergie libre, on pourra en parler aussi. Et là, j'ai choisi de vous exposer là, donc ces trois parties là qui constituent, enfin ces trois points qui constituent ma deuxième partie. Expliquer la religion par la science. Et je vais m'attarder un petit peu, on va essayer de comprendre bien ce que ça veut dire, expliquer la religion par la science. Et pour ceci, je vais vous prendre, c'est des gens pour qui la science est première. C'est-à-dire, c'est des gens qui croient, certes, mais pour qui sont d'abord avant tout des scientifiques, pour qui la science est première. Et j'ai trouvé une très belle illustration de ça dans une phrase de Vercors, Le silence de la mer, Les animaux dénaturés, 1954, très beau roman de science-fiction. Donc c'est une expédition en Afrique à la recherche du fameux chaînon manquant dans la chaîne évolutionniste. Et alors Pop, c'est un scientifique, un de ses personnages, un scientifique. Alors, orthogéniste, ça veut dire penser que l'évolution a un but, c'est-à-dire, on dirait maintenant créationniste, si vous voulez, mais orthogéniste, c'est une théorie qui a eu cours à un moment, enfin qui est surtout inspirée du lamarckisme, qui est orthogéniste, l'évolution a une direction. Bon, maintenant, la théorie néo-darwinienne, on admet que, enfin, on sait qu'il n'y a pas d'évolution dirigée. Hein. Donc, souvent, l'orthogéniste, c'est une évolution dirigée avec des finalités qui ont été fixées au départ. Donc voilà. Et cette phrase est assez profonde, je trouve. Ce n'est pas parce que Pop croit à une volonté divine qu'il est orthogéniste ou créationniste, mettons. C'est au contraire parce qu'il est orthogéniste qu'il croit à une volonté divine. Et c'est ça, expliquer la religion par la science, c'est ça leur moteur, c'est ça la science première. Hein. Et je pense qu'on se tromperait sur une analyse de certains créationnistes si on n'avait pas ça bien chevillé au corps, comme eux ont la science bien chevillée au corps. La science est première chez ces gens-là, si je puis dire. Le professeur Le Guyader parlait au sujet de Dorbigny, mais on va passer. À peu près le même genre de raisonnement, là. Donc voilà, ma première partie. Ma deuxième partie est consacrée aux deux cosmologies catastrophiste. Là, ma première partie est consacrée au créationnisme en astronomie et plus spécifiquement, au géocentrisme, hein, c'est-à-dire des gens qui pensent que le Soleil tourne autour de la Terre et on va en voir un certain nombre. Elle se compose de parties 1A jusqu'à 1G ou 1H, je ne sais plus. Voilà. Là, on va faire juste un tout petit peu de physique. Là, c'est au début, quoi. Vous savez, l'interprétation... oui, voilà, c'est ça. Ces gens-là vont nous présenter la relativité comme un échappatoire au géocentrisme. Et je vais essayer d'expliquer comment ils voient ça. Donc... ils interprètent donc l'interprétation de l'expérience de Michelson et Morley, vous savez que c'est un point dur qui fait que la théorie de l'éther n'arrive plus à expliquer le résultat négatif de Michelson et Morley. Einstein s'appuie là-dessus pour formuler sa théorie de la relativité restreinte, et la vitesse de la lumière est indépendante de la source. Elle est isotrope, ce qu'on appelle isotrope, c'est-à-dire ça ne dépend pas du mouvement de la Terre, qu'on prenne la lumière dans le sens du mouvement de la Terre ou perpendiculairement, on trouvera la même valeur, et c'est ce qui donne un résultat négatif à l'expérience de Michelson et Morley. Et alors, quelqu'un que j'ai un peu étudié, qui est polytechnicien, membre du Corps des Mines, comme moi, Maurice Allais, que je connaissais, qui est prix Nobel d'économie, mais qui a toute sa vie durant, à partir des années 50, contesté la relativité, prétendait, lui, que, justement, la relativité était fausse et donc était un partisan de l'éther. Et il disait l'espace est anisotrope, C varie suivant la direction. Donc, il contestait des résultats qui, pour l'instant, est totalement admis. Et à l'inverse, vous allez avoir des géocentristes. Donc, alors là, si je vous donne des noms, c'est que c'est aussi des ingénieurs polytechniciens. Gustave Plaisant, dans un livre de 1922, Yves Nourissa, quelqu'un qui m'a écrit d'ailleurs, qui est un créationniste. L'expérience de Michelson et Morley, elle ne peut pas donner de résultats pour la bonne raison que on cherche à détecter un mouvement de la Terre, en fait, autour du Soleil. Or, la Terre ne bouge pas, justement. Et c'est pour ça que l'expérience de Michelson et Morley donne un résultat négatif. Donc, si vous voulez, c'est parce que la Terre ne bouge pas que l'expérience de Michelson et Morley donne un résultat négatif, selon ces auteurs-là. Et donc, l'un comme l'autre, c'est amusant, pour des raisons différentes, Allais comme Plaisant vont demander à ce qu'on fasse encore des mesures encore plus précises sur cette expérience pour arriver chacun à des conclusions qui sont totalement inverses l'une de l'autre. Et alors après ça, chez Plaisant, vous allez avoir des théories du complot. La relativité a été inventée de toutes pièces pour nous cacher le fait que la Terre ne bouge pas, en fait, et que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Donc voilà, je voulais vous mettre dans l'ambiance. Là, on fera peut-être un peu moins de... ce livre... c'est 21 ou 22, je ne sais plus. Enfin, c'est Gustave Plaisant. Tourne-t-elle? Vous voyez, carrément, donc c'est interrogatif, mais il répond négativement. Et puis, ce que je voulais vous montrer, c'est que il me semble, mais ça, c'est une hypothèse... dans les années, entre les années 20 et 30, il y a une cristallisation comme ça de néo-créationnisme. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il y a le fameux procès du singe 1925 dans un État américain. C'est-à-dire qu'on a déjà le darwinisme qui nous donne des échelles de temps assez importantes, qui est connu à partir du... Enfin, 1859, mais qui va faire son chemin jusque début du XXe siècle. On a la géologie longue période uniformitariste de Lyell, qui a fait son chemin aussi. Bon, en astronomie, on n'arrive pas encore tout à fait à faire la jonction, c'est-à-dire à expliquer l'énergie, la consommation des étoiles. On n'a pas encore les clés d'explication. Et on commence à les avoir avec E égale MC2. Et il me semble qu'à ce moment-là, tout converge dans les années 20 pour expliquer... y compris l'astronomie, pour expliquer des temps très importants, des âges de la Terre et de l'univers très importants. Tout converge à ce moment-là. Et réciproquement, il y a une espèce de résistance dans ces années 20 qui se développe. Me semble-t-il, c'est une hypothèse que je fais et que je ne suis pas seul à faire d'ailleurs. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je voulais vous mettre en bouche comme ça pour vous montrer comment ça naît, peut-être, dans les années 20, ce nouveau géocentrisme, parce que ça peut paraître totalement aberrant. Donc, je voulais vous montrer que ça avait une racine, quand même, dans les années 20. Et on va voir qu'est-ce que ça représente au sein du créationnisme contemporain. Bon, bien évidemment, nous sommes là... j'ai pas prévu de parler des fondamentalistes musulmans. Je pourrais répondre à des questions, si vous voulez, parce qu'ils concernent plus la théorie darwinienne. Là, j'ai pris vraiment ce qui concerne l'astronomie. Donc, un attachement à la Bible, littérale, ce qu'on appelle l'inhérence biblique, elle ne peut pas se tromper. L'insupérabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas surpasser ce que dit la Bible ou le Coran. Voilà. Donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Hein, et la terre, et les deux grands luminaires, la lune et le soleil, ne sont créés que le quatrième jour. Hein, donc, vous voyez, ils sont donc moins importants. Alors, une phrase souvent utilisée par les créationnistes aussi, c'est celle-là dans le livre de Josué, là. Ils vont essayer de démontrer que le soleil... Donc, soleil, arrête-toi sur... C'est le fameux long jour de Josué qu'on retrouve beaucoup dans la littérature créationniste. Enfin, du point de vue biblique, je vous rappelle, c'était Josué vient à bout de ses ennemis. Soleil, arrête-toi sur Gabaon, ça veut dire que si Dieu ordonne au soleil, c'est donc que le soleil... Qui avance. Donc si Dieu dit soleil arrête-toi, c'est bien le soleil qui avance et la terre qui est fixe. Hein. Vous voyez le genre de choses qu'on trouve quand on s'attache littéralement à la Bible. Hein. Alors je vous montre ce petit schéma. Donc moi je mettrai d'ailleurs c'est marrant dans la revue du CEP, là je vous parlerai du CEP. Alors il y a tout un éditorial comme quoi ils veulent pas qu'on dise les créationnistes. Pour eux c'est le créationnisme. Comme il y a une création, il y a un créationnisme, si vous voulez. Et quand on dit les créationnistes, évidemment, quand on étudie ce domaine, et à mon avis, il y a plusieurs gradations dans le créationnisme. Moi, je ne mets pas tout sur le même plan non plus. Il y a des choses, à mon avis, plus lourdes que d'autres, je dirais. Mais du coup, quand on étudie plusieurs choses, on est obligé de mettre un S. Donc voilà, je ne suis pas en train de me justifier, mais je vous explique aussi ces questions de vocable. Donc, bon, si je prends là le créationnisme, vous avez le Young, un qui est assez radical, qui s'appelle le Young Earth Creationisme, le créationniste jeune Terre, hein, qui pense que la Terre a été créée 4000 ans avant Jésus-Christ. Enfin, il y a même la date du 25 octobre, moins 4004, etc. Il y a 6000 ans. Et au sein même du Young Earth Creationisme, tout le monde n'est pas géocentriste. Vraiment, les géocentristes, c'est ceux qui sont, à mon avis, le noyau dur du créationnisme. Hein. Et si on regarde un petit peu toutes les sciences là, voyez donc à gauche j'ai mis la science telle qu'on l'accepte à présent là, et puis la chronologie des créationnistes à droite, hein, voyez, et puis j'ai essayé de mettre un petit peu voilà justement comment ce voyez, donc on parle souvent du créationnisme anti-darwinien qu'on va trouver à droite, hein, donc un créationnisme anti-darwinien, ça concerne surtout la paléontologie, les biologies, les sciences de la vie. Des gens des créationnistes qui vont beaucoup insister sur la théorie du déluge. Alors là, vous allez avoir plutôt des gens qui s'intéressent à la géologie, aux sciences de la Terre. Et puis là, astronomie, justement, c'est ça que j'essaye de montrer, c'est que... parmi les créationnistes, ils ont tendance à se mettre chacun dans leur matière de prédilection. Surtout, c'était pour vous montrer que On peut examiner le créationnisme suivant plusieurs matières, branches disciplinaires différentes. Quoi. D'habitude, on entend beaucoup parler des créationnismes antidarwiniens, c'est-à-dire plus en sciences de la vie. Là, j'ai choisi de vous parler plus en astronomie, parce qu'ils sont plus radicaux aussi. C'est pour ça qu'on en parle moins. Voilà. Donc voilà, en France, en Belgique, alors le centre d'études scientifiques et historiques, le centre d'études et de prospective sur la science, moi je suis abonné, enfin maintenant je ne le suis plus, mais je l'ai été, et je suis allé à des réunions de ce centre d'études et de prospective sur la science. Hein, donc, vous voyez, l'univers électrique, on vient de dire un mot, enquête sur un massacre de la guerre de Vendée, enfin tout ça c'est pour vous dire que il y a parfois des connexions. D'où vient l'anticréationnisme, et puis d'où vient l'anticréationnisme, et puis en bas, en dessous, la vision chrétienne de la famille. Bon, ne portons pas d'appréciation au-delà de ce qu'il le faut, mais je voulais vous montrer que, et vous allez voir ce que c'est quand même le CEP, c'est quand même du créationnisme assez radical. Bon, je vais regarder en diagonale les autres articles, mais... Et aux USA, vous avez... on va peut-être pas reprendre tous ces gens-là, ces noms, c'est pas forcément intéressant. Voilà, un se nommer Walter van der Kamp. C'est intéressant parce qu'il est anti-relativiste aussi, c'est un ingénieur, il conteste la théorie de la relativité. Lui aussi propose un appareil pour tester l'isotropie de l'espace, hein, ce que je vous disais au départ. Là. Alors, chez Gerardus Bow... ça, je voulais vous montrer ça, on peut le commenter. C'est pour expliquer les... Donc là, c'est la Terre au milieu et c'est le Soleil en haut, la petite croix. Et vous savez à quoi ça sert, ce mouvement-là? S'il y en a un qui trouve, là, il connaît bien l'astronomie, là. Marqué, j'ai pas étudié... c'est-à-dire qu'elle descend comme ça, puis elle remonte, on sait pas jusqu'à quelle limite. Mais si on sait jusqu'à quelle limite, on peut la calculer. Donc c'est pour calculer les saisons, ça, en fait. C'est pour montrer l'inclinaison différente les durées de jour et de nuit différentes. Alors, je suis pas rentré totalement dans la théorie, mais on voit bien que, en effet, il y a un angle d'inclinaison qui est un peu différent. Ah, oui, voilà, j'ai mis les saisons en haut. Un angle d'inclinaison qui est différent suivant que c'est en haut, suivant que c'est au centre, et en bas, c'est symétrique. Donc, vous voyez le genre de choses qu'on va avoir. Et mine de rien, je vous ai dit qu'il y avait des séances du CEP, je vous dirai où tout à l'heure, dans un. mais là, vous avez dans un hôtel de. Vous voyez, Galileo Who's Wrong, The Church Who's Right. Et la première, Dr. Robert Sanjanis, géocentrisme, ils le savent, mais ils le cachent. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même des conférences, une conférence payante, là, 6 novembre 2010, un bel hôtel de South Bend, Indiana. Tiens, du coup, j'ai regardé où c'était. Donc, une conférence payante, bien évidemment, $50, dans un hôtel de South Bend. C'est quand même une assez grande ville. Hein. Je crois même qu'il y a une université là-bas, donc c'est une ville de 100 000 habitants. Donc, voilà. Et les autres mouvements créationnistes, ça vous sont plus étudiés, ça, si vous lisez de la littérature, des gens qui étudient le créationnisme, Lecointre, Grimoud, Bertrand Lemartinel, dont je conseille l'ouvrage sur la géographie créationniste. Donc, ils expliquent bien ces mouvements-là. Hein. Ça, vous avez des sites internet assez... Mais je vais vous parler des sites internet, justement. Donc, voilà, d'autres mouvements créationnistes. Alors, donc mon 1A, c'était Michelson-Morley. Mon 1B, c'était une présentation globale de ces mouvements. Mon 1C, c'est vous montrer l'utilisation de l'astrophysique contemporaine, de l'astronomie, d'abord. Bon, je vais tout vous mettre. Parce que je... Bon, allez. Non. Le premier, pas tellement convaincant. Enfin, le deuxième non plus. Mais le système Terre-Lune est unique. Vous voyez, la Lune est vraiment la plus grosse masse. Quand on regarde les satellites de Jupiter, c'est des tout petits trucs. Tandis que le système Terre-Lune est unique. Et donc, ce qui fait de la Terre vraiment le centre des choses. Hein. Alors, autre chose aussi qui est tout à fait étonnant, c'est le miracle des éclipses. Des éclipses totales et annulaires de soleil, aurais-je dû mettre. Comme vous le savez, le diamètre apparent de la Lune est à peu près égal à celui du soleil, ce qui fait qu'on peut apercevoir des éclipses totales, mais des éclipses annulaires aussi suivant, puisque le diamètre apparent est le même. suivant la position respective, comme c'est pas exactement, on a des éclipses annulaires et des éclipses totales, donc parce que les diamètres apparents sont égaux. Et ce que vont nous dire les créationnistes, c'est quel beau spectacle que Dieu nous a accordé, puisqu'il permet à l'homme de voir à la fois des éclipses totales, bon, ça dans tous les cas, et des éclipses annulaires, justement, à cause de ça. Et voyez donc, ce n'est pas un hasard si le diamètre apparent de la Terre est égal de la Lune est égal à celui du Soleil vu de la Terre. Hein. Donc, Dieu a mis la Terre, la Lune exactement à la bonne position pour qu'on puisse observer les deux types d'éclipses. Les vieilles lunes, je me suis permis cette expression. Ils vont dire, voyez, on fait tous les calculs dans un référentiel terrestre, donc c'est, tout ça, ça veut dire que c'est du bidon, le fait que tous les calculs d'éclipses, on les fait dans un référentiel terrestre. Les planétariums, quand vous allez dans un planétarium, on vous montre la voûte étoilée depuis la Terre. Donc ça veut bien dire que la Terre est au centre de l'univers. C'est sur le mode, ils disent quelque chose, mais ils font autre chose, puisque ils vous montrent un planétarium, ils font tous leurs calculs dans le... je vous livre un certain nombre de trucs, comme ça je détaille pas les arguments, parce qu'on passerait peut-être trop de temps, mais c'est au hasard de mes lectures. Les ingénieurs NASA, ont reconstitué sur deux millénaires le mouvement des planètes, et ils auraient retrouvé le fameux long jour de Josué dont nous parlions tout à l'heure, quoi. Donc, mais ils le disent pas, hein, bien évidemment. Hein, donc voilà. Bon. Alors là, c'était sur l'astronomie traditionnelle. Alors, utilisation des découvertes astrophysiques les plus récentes. Le fond diffus cosmologique, enfin, en gros, il est isotropique. C'est le fait qu'il y ait des petites différences, c'est du second ordre pour les créationnistes dont je parle. Donc, ils retiennent qu'il y a une isotropie du fond diffus cosmologique. Et ils disent donc, en voyant les cartes de Planck, ils disent donc, tout vous mettre, parce que c'est à peu près le même argument, j'espère que je ne dis pas de bêtises, monsieur Kuhn, donc ils disent la Terre est au centre, or, d'où qu'on prenne le fond diffus cosmologique, il apparaîtra comme isotrope, enfin, ce n'est absolument pas une preuve du fait que la Terre est au centre, hein. Pareil, ils interprètent des choses comme l'expansion de l'univers. Si toutes les galaxies s'éloignent de nous, c'est que nous sommes au centre de l'univers, c'est que la Terre est au centre de l'univers, donc c'est que la Terre, c'est que la Terre est immobile au centre de l'univers. Bon, comme vous le savez, la récession des galaxies existe en tout point de l'univers, donc où qu'on se place, tout ceci reste vrai. Donc c'est vraiment des considérations tout à fait abusives. Autre chose aussi, parce que il manie les arguments même inverses les uns des autres. La science moderne avec la relativité, enfin, a invalidé l'héliocentrisme en quelque sorte, puisque le Soleil lui-même bouge, tout est en mouvement dans la galaxie qui elle-même bouge, etc. On peut parler d'acentrisme. Et donc les créationnistes nous disent, si l'héliocentrisme était si sûr que ça, pourquoi l'ont-ils abandonné? Donc, enfin, je veux dire, pourquoi a-t-il été abandonné? Et dans ce cas-là, si vous voulez, la relativité, quand je vous expliquais tout à l'heure qu'elle était considérée comme un échappatoire au géocentrisme, là, elle est utilisée comme étant au profit du géocentrisme. Donc voilà. Et ce que je voulais vous montrer là à travers ça, c'est de la même manière que vous avez des créationnistes en biologie qui sont pas des, c'est des gens qui s'adaptent, c'est le cas de le dire, ce qu'on appelle l'intelligent design, c'est-à-dire c'est pas forcément des gens qui pensent que tout a été créé il y a 6000 ans. C'est des gens qui s'adaptent aux théories en vigueur, c'est-à-dire à la théorie darwinienne. Mais qui disent, ah, mais il y a eu quelque chose à un moment, quoi. C'est-à-dire, il y a un dessin intelligent. Enfin, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept. Ça fait partie de créationnistes moins durs que ceux que je vous décris. Donc, des gens qui pensent que, oui, nous croyons en la théorie de l'évolution. Oui, Darwin a raison, mais sauf qu'à un moment, il y a eu un dessin intelligent. Donc, si vous voulez, ces corps de doctrine comme le créationnisme peuvent ingérer aussi des découvertes récentes de la science. Enfin, là, le darwinisme n'est pas spécialement récent, mais bon, ce que je voulais vous montrer, c'est comment aussi le créationnisme, là, en astronomie, intègre cette partie Big Bang en disant, voilà, expansion de l'univers, ben voilà, ça ne fait que confirmer ce que l'on pense. Hein. Donc, encore autre chose, là, oui. Vous connaissez, je suppose, les travaux de Jacques Lascar, ici même, sur les... Enfin, je résume rapidement, parce que je ne prends peut-être pas les bons mots, mais enfin, la théorie est que les orbites sont chaotiques sur des très très grandes périodes, peuvent être chaotiques sur des très très grandes périodes. Alors, eux vont dire, alors, ils étudient ces travaux-là, ils disent, si les orbites sont chaotiques, c'est que Laplace et son fameux déterminisme avaient entièrement tort, et que Newton aussi avait tort. Et donc ces lois de la gravitation qui font tourner le soleil, la Terre autour du soleil, sont fausses. Voilà, bon, là-dessus je vais... Oui, bien évidemment, oui, alors c'est... on va regarder la partie en rouge, là. On retrouve dans la littérature créationniste une opposition complète à tout ce qui est la recherche de vie extraterrestre, par exemple, quelle qu'elle soit, que ce soit de la vie... caractère humain ou de la vie protozoaire. Donc pour eux, il n'existe de création que sur Terre. Hein. Ils abordent aussi les termes, ça j'ai remarqué que dans cette littérature, évolution stellaire, hein, vie et mort d'une étoile, etc. Ça, c'est des choses qui ont du mal à passer de la même manière, alors carrément que les enfants du soleil, je crois que c'est des gens comme M. Braik utilisent cette expression, ou poussière d'étoiles, puisqu'on vient du carbone des étoiles, tout ça, ça, c'est vraiment contesté dans la littérature créationniste de manière assez, assez forte. Hein. Alors, je vais prendre une étude de cas, là, un astrophysicien, je dis bien un astrophysicien créationniste, adjectif, là, et américain, par ailleurs. Donc, et il va faire de l'épistémologie, c'est-à-dire qu'il va s'élever contre l'apparence de vieillesse. Alors, essayez d'imaginer, on va faire un exercice de créationnisme, là, tiens. Essayez d'imaginer Adam au paradis, vous voyez comment, là. Pardon ? Oui, allez-y. Ouais, blanc, jeune et beau, c'est ça que vous avez dit. Non, alors, c'est le deuxième qui m'intéresse. Là. Donc jeune, comment jeune ? 20 ans. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, on parle de création là. Donc 20 ans justement, 35 ans, pourquoi pas ? Enfin comme ça quoi, en gros. Hein ? Or pourtant, le problème c'est qu'il vient d'être créé, quoi. Donc, et alors là, je prends ça chez certains créationnistes américains. Of course, we would have been wrong d'imaginer, nous aurions tort d'imaginer Adam comme ça, parce que Adam a été créé il y a quelques jours auparavant. Hein. En d'autres termes, la création implique une forme d'histoire existante. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'apparence de vieillesse. Hein, c'est l'argument de l'apparence de vieillesse. Hein, c'est-à-dire que Dieu a créé les choses avec une apparence de vieillesse. Il a créé Adam comme s'il avait 20 ans. Hein. Mais attendez, c'est un argument qui va assez loin, ce truc-là, parce que donc vous le trouvez, par exemple, sur le site de l'Institute for Creation Research. Voilà. Mais vous le trouvez déjà chez, enfin ça j'étais content de retrouver ça, chez Bertrand Russell. Enfin, Bertrand Russell n'est pas créationniste. Il dénonce chez un de ses compatriotes, le naturaliste Gauss, parce que c'est une théorie qu'on peut remonter, la théorie de l'apparence de vieillesse, on peut la remonter à travers les âges. Donc un naturaliste, Gauss, un peu genre d'Orbini que je n'ai pas cité tout à l'heure, qui nous dit « tout a été confectionné » comme si tout avait eu une histoire antérieure. Parce que c'est pas que Adam comme ça. C'est les roches qui ont été créées avec des fossiles dedans, hein, et puis déjà complètement plissées aussi, quoi. Donc c'est assez compliqué. Et alors en astronomie aussi, c'est-à-dire que c'est des étoiles qui ont été créées avec, il y a 6000 ans, mais avec 13,7 milliards d'années, moins 6 millions de lumière, la lumière a parcouru ça déjà. C'est ça que ça veut dire, l'apparence de vieillesse, et je vais essayer de vous le détailler. Donc là, pour l'instant, je remonte historiquement. Donc Bertrand Russell, dans 1935, se moque de son compatriote Gauss, qui disait « Tout a été confectionné comme si tout avait eu une histoire antérieure ». Et on retrouve, alors là, quand j'ai lu ça, j'étais sur les fesses, là. Chateaubriand, dans sa défense du christianisme, génie du christianisme, il a une phrase qui est vraiment l'apparence de vieillesse, là. Cette difficulté a été 100 fois résolue par cette excellente et unique réponse. Dieu a dû créer et a sans doute créé le monde avec toutes les marques de vétusté et de complément que nous lui voyons. C'est exactement le même argument. Et j'ajoute que, ça c'est un peu, je fais un peu de psychologie là, mais on retrouve ça souvent dans mon bouquin, je le souligne à plusieurs reprises. Quand je vois 100 fois Dieu a dû créer et a sans doute, on se demande parfois si l'auteur croit même à ce qu'il écrit quand il insiste aussi lourdement sur son propos comme ça, de cette manière, mais enfin bon. Alors revenons à Russell Humphrey. Russell Humphrey, c'est un astrophysicien, il apprécie pas tellement cette théorie qui lui paraît trop primaire. Et bon, bref, je vous passe. Enfin, c'est un astrophysicien. Il fait surtout de la physique nucléaire. Et puis, dans sa carrière créationniste, il est astrophysicien. Donc, pour être précis. Hein. Puis, cet institut pour Creation Research, c'est là que je vous ai parlé de mimétisme. Ils ont des programmes de recherche comme ça, comme on aime bien là, les programmes de recherche en quatre lettres. Là, tout le monde a participé. Tous les chercheurs ici ont participé à des programmes de recherche en quatre lettres. Ben voilà. Radioisotopes and the Age of the Earth. Ça veut dire reconsidérer complètement la datation radioisotopique uranium de la Terre pour arriver à prouver que la Terre est jeune. C'est ça que ça veut dire le programme de recherche RATE. Donc voilà. Oui, alors pardon, je ne voulais pas expliquer, zut, c'était la théorie, oui, il manque une slide là, pour le coup, la théorie de la lumière en chemin. L'apparence de vieillesse, ça veut dire la lumière en chemin, c'est-à-dire qu'il s'adapte au fait qu'il y a un Big Bang, par exemple Proxima Centauri, 4 années-lumière, elle a été créée avec sa lumière en transit, 4 années-lumière. La lumière avait déjà fait 4 années-lumière. Enfin, je vous laisse convertir un peu, parce que là, je jongle sur des unités un peu différentes. Mais enfin, 4 années-lumière, moins 4000 ans, moins 6000 ans, quand ça a été créé, quoi. Et je sais pas quelle galaxie à 13 milliards d'années-lumière, pareil, si vous voulez. Donc, et ils prennent l'image d'Adam pour vous familiariser avec ce raisonnement, si vous voulez. Parce que quand vous dites Adam, quand je vous ai dit Adam, vous dites, ah bah oui, bien sûr, ouais, 20 ans, oui, 35 ans, oui, pas en couche, évidemment. Hein. Donc voilà, pour vous familiariser avec ça. Donc ça, voilà, je voulais rentrer dans le détail de cet argument-là. Voilà, bon, allez, on va pas... Alors, oui, Russell Humphrey, il va proposer une autre théorie. Hein, il dit que le temps, voilà, le temps est compté de manière différente. Hein, voilà. Je ne sais pas comment il utilise la relativité générale d'Einstein à son profit. Il dit que la gravité change l'écoulement du temps et que... la conclusion, en gros, c'est de dire un jour sur Terre, la création équivaut à des milliards d'années dans l'univers. C'est comme ça qu'il explique, en gros, 6 jours de création égale 12 milliards d'années lumière par rapport à la science actuelle. Donc, vous voyez, c'est des contorsions assez particulières qu'il fait. Mais ce que j'aime bien, ce qu'il fait, c'est qu'il fait de l'épistémologie créationniste. Et puis, il conclut, il dit, ah, c'est bien qu'une théorie créationniste en chasse une autre, c'est-à-dire que lui, sa théorie qu'il a montée, là, chasse cette théorie un peu surannée de l'apparence de vieillesse. Hein. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer sur l'épistémologie créationniste. Alors, on va rentrer dans les ingénieurs créationnistes du cercle d'études scientifiques et historiques. On revient en France, là, cette fois-ci. Et puis, beaucoup d'ingénieurs. Hein, le président d'honneur du CESHE, c'est Prince Guy de la Tour d'Auvergne. Voilà. Et donc, j'ai trouvé aussi beaucoup de... cet Yves Nourissa. Donc, je vous l'ai dit, cet argument déjà conteste le rayonnement fossile et le Big Bang. S'il est isotrope, c'est que la Terre est au centre de l'univers. Et puis tout d'un coup, vous avez une phrase, une explosion aveugle ne pourrait expliquer la beauté du ciel et la régularité des mouvements du système solaire. Hein, donc, Et voilà, parce que Yves Nourissa écrit aussi en anglais. Donc, in conclusion, modern astronomical observations concur with the teaching of the Bible and the fathers of the church to an astonishing degree. Donc, vous voyez, il utilise les... Bon, mais il conteste la théorie des atomes. Il veut revenir à la cosmologie de Saint-Hildegarde. Voilà. Enfin, je suis pas là pour me moquer. Je suis là pour vous montrer un petit peu certains raisonnements scientifiques. Sur les particules constitutives de la matière, celles-ci ont été découvertes en essayant de casser les noyaux. C'est comme si on cassait volontairement un objet au lieu de l'observer avec minutie. Oui, mais évidemment, c'est des chocs. On a découvert, on a découvert les particules en les choquant les unes contre les autres. Et alors lui, il est dit, voilà, que comment peut-on étudier les choses en les faisant rentrer l'une dans l'autre? Enfin, tout ceci est à l'opposé du bon sens. Hein, on retrouve ce fameux bon sens ici. Alors, plus idéologique, là, on va rentrer dans des choses plus idéologiques, hein, à supposer que ce ne le soit pas, là, mais... ouais. Voilà, Deken, un centralien, qui fait partie toujours de ce même cercle-là, il va taper sur Copernic... Il inaugurait de l'ère de la science fondée sur des hypothèses, je vais revenir là-dessus. Contre Galilée, il était héliolâtre, hein, il était adorateur du dieu soleil, c'est pour ça qu'il a, il était orgueilleux. Alors c'est vrai qu'on peut utiliser la personnalité de Galilée, une certaine arrogance contre lui, contre ses résultats. Hein, alors ça, c'est ce que j'appelle l'argument du chaudron, là. L'argument du chaudron freudien, c'est... je ne t'ai jamais emprunté de chaudron, et d'ailleurs il était déjà percé quand tu me l'as prêté. Je répète, je ne t'ai jamais emprunté de chaudron, et d'ailleurs il était déjà percé quand tu me l'as prêté. C'est-à-dire, c'est de prendre deux arguments totalement contradictoires pour mieux justifier. Et ça, c'est, vous le retrouvez souvent dans mes objets d'études, c'est faux, et d'ailleurs, quelqu'un l'avait inventé avant lui. Hein. La relativité, c'est faux, et d'ailleurs, c'est Poincaré qui l'avait inventé avant Einstein. L'héliocentrisme, c'est faux, et d'ailleurs, les Grecs l'avaient trouvé avant Galilée. Enfin, vous pouvez refaire ces genres d'argumentation... contre Newton, on va passer là. Ça aussi, je vais vous détailler un peu plus là, parce que Deken. Voilà. Par exemple, contre Einstein, toujours dans l'éditorial du Cercle d'études scientifiques historiques, Einstein a incarné l'hétérotélie. Alors, l'hétérotélie, ça c'est intéressant, c'est un philosophe qui a. Après, c'est africoté avec le Front National, Jules Monroe. L'hétérotélie, ça veut dire on a toujours des buts différents de ce qu'on veut faire au départ. Alors voilà comment ils illustrent ça. Donc, l'action accomplie n'est jamais conforme à ce qui était projeté. Einstein, c'est un ours solitaire qui a été changé en célébrité mondiale. C'était un juif pas très pratiquant, pas du tout même, qui a été changé en leader sioniste. Contre son gré, en quelque sorte, c'est ce qu'ils sous-entendent. Ah, zut, mais j'avais un autre truc. Le 3, ben, je ne sais pas, il a disparu. C'est un pacifiste, ce qui est vrai, pendant 14-18, il signe un appel pacifiste qui s'est transformé en avocat de la bombe atomique auprès de Roosevelt. Donc tout ce qu'il a fait était... tout ce qu'il a fait était contraire à ses objectifs initiaux. Enfin, voilà comment Einstein est attaqué dans la revue du... Bon, on s'éloigne un petit peu du créationnisme. Là. Je voulais vous montrer là, le fonctionnement de... Oui, vraiment un fonctionnement de communauté scientifique, un mimétisme, hein, quand on regarde leur site Internet. Hein. Oui, dernier point. Ils font une vulgarisation scientifique tout à fait correcte, parfois. Enfin, si vous voulez, vous pouvez lire des articles créationnistes. Enfin, il y a des choses... tout à fait, enfin, qui sont pas choquantes. Puis tout d'un coup, vous avez des phrases qui sont des vérités révélées, enfin, comme celle que je vous ai dite sur Nourissa tout à l'heure. Et puis, autre caractéristique aussi, vous avez, ça c'est rare de voir ça sur Internet, on avait ça au début de l'Internet, hein, mais vous avez des avertissements quand vous cliquez sur un lien externe. Pourtant, il vous envoie là, il vous envoie du site créationniste, Answers in Genesis, vers un site raélien, enfin bon, c'est pas non plus un site... Mais ils disent, attention, vous quittez le site, là, est-ce que vous voulez vraiment quitter notre site parce que vous sortez de nos contenus, etc. Donc, Voilà, et puis vous trouvez du prosélytisme aussi, hein, de nombreux chrétiens scientifiques, sous-entendu, sont entrés dans le domaine de la géologie et de la biologie, ce que je vous disais tout à l'heure, pour contrer l'évolutionnisme. Eh bien, il faut qu'on soit plus sous-entendu, de chrétiens astronomes qui rentrent dans ce domaine. Il y a trop peu d'astronomes créationnistes. Oui, alors des choses plus idéologiques. Donc, Copernic, c'est ce que je vous disais sur Deakin tout à l'heure. Copernic a ouvert la voie à une régression de l'humanité. Le concept de révolution copernicienne, ce qu'on appelle le concept de révolution copernicienne, qui est une révolution scientifique au sens kuhnien du terme, ben non, eux, ils vont nous dire, bah oui, bah alors du coup, il n'y a plus que des révolutions après. Alors, il faut savoir, c'est des gens qui sont quand même contre-révolutionnaires au sens vraiment propre du terme et politique du terme. Ils vont nous dire, bah voyez, après Copernic, il y a eu la révolution américaine, il y a eu la révolution française, entre-temps, il y avait eu la révolution anglaise qui a conduit à remettre en cause la création elle-même par un certain nombre de scientifiques. Hein. Et puis ça a donné la relativité qui lui-même a donné le relativisme. Enfin, ils font des raccourcis. Enfin, tout ça pour vous montrer. Voilà. Alors la conférence CEP, donc j'en dis un mot puisque j'étais. Membre de cette association, j'ose pas dire société savante. C'est-à-dire que quand vous allez dans la conférence, oralement, vous entendez des trucs que vous lisez pas forcément, quoi. Par écrit, donc, du style « L'humanité menée par qui nous savons »,« Copernic, ça a été le début de la judaïsation du monde et de l'Église », enfin bon. Ben là, c'est toujours le même argument du chaudron, et c'est l'orateur cite un kabbaliste juif du XIIe siècle qui avait l'intuition du Big Bang avant... il dit Penzias, alors il nous précise un juif confirme je ne savais pas moi confirme avec Wilson le rayonnement CMB voilà enfin bon c'était un peu limite cette conférence là et c'est une conférence à clé quoi. Il va nous dire la science moderne est issue de la cabale juive et d'une église judaïsée à ce moment-là. Ce n'est pas une science, c'est une religion, hein, et autant garder notre religion à nous. Donc ça, c'est des choses qu'on peut entendre, je vous dis, dans un séminaire. Bon, je pense vous avoir convaincu de danger des créationnistes, je ne peux pas revenir là-dessus. Donc c'est aussi une contestation de la démarche scientifique elle-même. Hein, et dans certains cas, je suis allé un peu vite, mais un lien à des idéologies, je vous ai parlé d'antisémitisme, vous avez de l'anti-britannisme. Et vous avez, dans le cas d'Haroun Yahya, celui qui a envoyé de l'Atlas de la création à tous les lycées et collèges français en 2007, forme de prosélytisme musulman, mais enfin, on pourra en parler. Excusez-moi, je vais un peu vite. Je vais terminer en évoquant une cosmologie catastrophiste sur les deux, là, celle d'Herbiger, parce que ça va nous changer un peu. on va parler de cet ingénieur, Hans Herbiger, voilà, qui fait la... Ouais, je me suis même acheté le livre, là. Glacial Cosmogonie. Hein, donc... 1911, hein, deuxième édition, 1925. Je vais aller un peu vite, hein, mais je pense que c'est intéressant d'évoquer ce sujet avec vous. Il y avait un fleurissement de cosmologie. Hein. D'ailleurs, il y a quelqu'un de l'EHESS et du Centre Corée qui a fait sa thèse sur toutes ces cosmologies alternatives. Hein. Je vous ai dit qu'à cette époque-là, entre 1880 et 1920, entre ce que dit Kelvin sur l'énergie des étoiles et puis les Hubble, il y a quand même un moment où plein de gens émettent des hypothèses, quoi. Donc, c'est à ce moment-là que l'astrophysique, c'est dans les années 20 uniquement que l'astrophysique fait la jonction avec la géologie et le darwinisme pour une explication d'un âge ancien de l'univers. Hein. Alors, qui, donc, c'est pas moi j'ai pris une une cosmologie, mais il y en avait pas mal, hein, finalement. J'ai pris une parce qu'elle a, elle a eu des retentissements encore aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment. Alors, Hans Orbieger, c'est un ingénieur autrichien. Il a fait fortune avec ses brevets. Alors, bon, voilà, sa cosmogonie lui a été révélée sur le tard, à 52 ans. Hein, il publie en 1912. En observant la Lune, il comprend que c'est un bloc de glace. Voilà, il a cette illumination. La Lune est un bloc de glace. Et vous allez avoir une théorie qui est totalement multidomaine, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, à volonté holiste et unificatrice. Hein. Alors, il faut savoir que Orbieger, il a droit à un timbre autrichien quand même, hein, parce que son entreprise est une des plus brillantes entreprises d'Autriche. Hein, donc, si vous voulez, vous avez encore le site internet des valves hydrauliques Orbieger. Là, donc, vous voyez le nom là-haut. Là, donc... Bon, mais c'est aussi un intérêt tout à fait particulier, parce que c'est une dynastie d'acteurs très florissante en Allemagne. Ils ne sont pas du tout connus en France. C'est des acteurs de boulevard allemand, les Orbieger. Voilà. Ouais, Christine, un timbre allemand, là, un timbre autrichien. Christiane Orbieger, c'est une actrice qui est liée à... Alors, pourquoi je me suis intéressé à Orbieger ? Parce que les nazis ont utilisé politiquement cette cosmologie-là. Et puis après, elle a fait partie d'un volet scientifique d'une mythologie liée aux nazis, notamment dans Le Matin des magiciens. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez cet ouvrage des années 60 de Powels et Bergier. Il consacre plus que le tiers, hein, je dirais bien, les deux cinquièmes de son livre... à Orbieger et à la cosmologie glaciaire d'Orbieger comme schéma d'explication du nazisme. Et Orbieger est souvent cité comme ça dans des livres, par exemple, Denis Sora, L'Atlantide et le règne des géants. C'est quelque chose qui a eu beaucoup de succès à cette époque-là. Et donc, j'ai trouvé intéressant de... vous avez des revues comme ça qui s'appellent Nexus, là. Que vous pouvez trouver en kiosque, science et alternative. Alors là, vous avez, ça c'est vraiment un réservoir d'alter-science pour le coup, parce que là vous avez beaucoup de choses, la fusion froide, du conspirationnisme du 11 septembre, l'astrologie à l'épreuve des statistiques, c'est-à-dire plutôt pro-astrologie, et un certain nombre de choses là dans cette revue Nexus qui est tout à fait étonnante. Hein. L'énergie libre. Bon, excusez-moi, je passe. Voilà. Alors, la théorie catastrophiste d'Orbieger, c'est quoi ? C'est donc la Lune est couverte de glace, je vous l'ai dit, avec des chiffres très précis, hein, 185 km d'épaisseur de glace, hein. Vénus, 479 km d'épaisseur de glace. C'est là-dedans, tout ça. La création, c'est pas un créationnisme, hein, c'est un catastrophisme, hein, je fais la distinction, il n'y a pas de dieu chez Orbieger, hein, c'est un catastrophisme au sens, à l'opposé de, vous connaissez l'opposition entre catastrophisme et uniformitarisme, hein, donc puisque la science à présent, elle penche plutôt, quoique pour l'explication des dinosaures, c'est pas encore totalement clair, mais elle penche plutôt pour un aspect uniformitariste, c'est-à-dire que les mêmes principes ont été à l'œuvre. Il n'y a pas eu changement dans les principes physiques à l'œuvre, et contre un catastrophisme qui expliquerait le déluge, un certain nombre de choses. Alors chez Orbieger, vous avez une masse pleine d'eau est entrée en collision avec une énorme étoile, et l'eau condensée a été expulsée dans l'espace interstellaire. La voie lactée est composée de blocs de glace. Hein. Donc vous voyez tous ces blocs de glace qui sont là c'est, voilà. Et les planètes ont absorbé de nombreux blocs de glace. L'éther n'est pas vide. Enfin, tout ça, c'est des hypothèses ad hoc. On va peut-être pas rentrer dans ces détails. Hein. L'éther est composé. Il n'y a pas de vide. L'espace interstellaire n'est pas vide. Il est composé de gaz hydrogène. Oui, dit l'éther parce qu'on disait l'éther à l'époque. Il ralentit la rotation des satellites autour de leur planète. Et donc ralentit la rotation des satellites autour de leur planète, ça veut dire que la Lune, par exemple, elle ralentit, donc elle se rapproche de la Terre. Et puis bon, donc il y a déjà trois lunes qui se sont écrasées sur la Terre, si vous voulez. Les blocs de glace quand ils heurtent le Soleil, c'est comme ça, c'est l'explication des protubérances de la couronne solaire. Hein. Vous voyez, c'est des explications monocausales, quoi. C'est, si vous voulez, une fois que vous avez votre bloc de glace, vous le mettez à toutes les sauces, si je puis dire. Donc, il sert à tout, quoi. Alors, une autre hypothèse ad hoc, la gravité s'arrête à 3 fois la distance de Neptune. Hein. Soleil-Neptune, oui, quand je n'ai pas géocentriste. Donc la loi de Newton est une loi locale. Hein, donc, bon, voilà. Alors si on regarde un petit peu les exploitations politiques de cette pseudo-théorie, c'est ça qui est assez intéressant, parce que... vous voyez, donc il y a eu vraiment... moi, ça me fait penser à je me rappelle, pendant l'année mondiale de la physique, il y avait des gens qui perturbaient les réunions consacrées à la relativité en disant et Poincaré, etc. J'ai vu des réunions à l'ENS perturbées par des gens comme ça. Et là, vous avez un peu pareil, là, des gens qui... cette théorie a beaucoup pris en Allemagne et en Autriche. Hein, et vous aviez des... Ouais, ça, c'est un document d'époque... Hein, Die Welteislehre, ça veut dire, l'Ehre, c'est la théorie, hein, la théorie de la glace mondiale, la théorie de la glace universelle, en quelque sorte. Hein. Et la Welteislehre est une science dont nous, il s'appelait des cosmotechniciens, hein, sommes les experts, seuls nous sommes les experts, et les gens de la science officielle qui nous contestent sont des profanes à cet égard. Nous, cosmotechniciens, sommes les profanes. Hein. Nous sommes les experts de cette science. Hein. Donc vous avez aussi des titres de journaux grand public. La glace, un matériau de construction du monde. Hein. Et donc ils interrompent les séances. Ah bah l'astronomie officielle, au lieu de nous croire, vous croyez des équations. Donc ça a été pas mal documenté, ça, donc... Et puis après, vous avez aussi de l'idéologie qui vient là-dedans. Hörbiger dans la science, c'est comme Hitler dans la politique, c'est-à-dire de la même manière qu'Hitler a damé le pion aux professionnels patentés de la politique, à la politique officielle, parce qu'on est vraiment dans les mêmes époques, là. Hein. Hörbiger meurt en 1931, là, la deuxième édition de son bouquin, c'est 1925. Hein. Idem pour Hörbiger vis-à-vis de la science officielle des Copernic ou des Einstein. Hein. C'est une antithèse germanique de la théorie juive de la relativité. Hein. À ce propos, d'ailleurs, le matin des magiciens perpétue une erreur, à savoir que les gens qui faisaient la physique allemande contre la physique juive, là, les prix Nobel, Lennart et Stark, auraient soutenu Hörbiger. C'est faux, ils s'en étaient totalement distingués. Alors, c'est marrant parce que cette erreur qui est dans le matin des magiciens est répétée dans un certain nombre d'ouvrages. Voilà. Et Hörbiger meurt en 1931, et donc vous avez ses héritiers qui confient la théorie, qui confient la Welteislehre, les résultats de la Welteislehre, à Himmler. Hein. Himmler, il y aurait beaucoup à dire sur les rapports d'Himmler et de la science, hein, c'était vraiment un illuminé, hein, Himmler. Et puis c'est pas n'importe quoi, l'Annenerbe, enfin il y a quand même 3 ou 4 personnes de l'Annenerbe qui sont pendues dans les procès de Nuremberg, hein, puisque c'était toutes les recherches dans les camps de concentration, docteur Wolfram Sievert, etc. Sievert, c'est autre chose, excusez-moi. L'Annenerbe, c'était quelque chose de, enfin c'était l'institut de recherche nazi. Hein, donc voilà, qui récupère la Welteislehre. Et on trouve des citations d'Hitler à propos d'Hörbiger. Ben, je vais terminer bientôt parce que je crois que je suis assez disposé à admettre les théories de Hörbiger, ce que nous dit Hitler dans les libres propos. Voilà. Bon, peut-être pas rentrer dans la pensée de Hitler au sujet des cosmogonies. Voilà, sur les mythes au sujet de la théorie de Hörbiger qui sont après perpétués. Donc, ice and fire, c'est-à-dire le principe des contraires, hein, c'est-à-dire le feu et la glace. Hein, et puis, la glace est le milieu naturel de l'homme nordique. La blancheur de la glace, c'est la blancheur de la race. Voilà. Et puis, d'ailleurs, au départ, ça s'appelait, ben, je vous l'ai montré, là, la glaciale cosmogonie. Et ça fait un peu trop latin, comme glacial, c'est que des mots latins là, et grecs. Ça va être rebaptisé la Welteislehre. Hein, donc, Voilà. Et là, vous retrouvez, c'est là qu'on fait le lien avec la revue Nexus, mais je fais des liens assez rapides, je suis désolé, dans mon livre, je l'ai fait mieux. Justement, quand une lune, suite à son ralentissement, une lune, justement, se approche de la Terre, ben ça crée des choses particulières. Hein. C'est les hommes deviennent immenses. C'est la fameuse race, puisqu'ils sont... par effet de marée, les hommes deviennent plus grands. Et c'est la fameuse race des géants. Hein. Ils vivent plus longtemps, car l'allègement du poids diminue l'usure de l'organisme. Il y a des rayons cosmiques plus puissants qui favorisent... Enfin, voilà, vous trouvez toute une littérature autour d'Herbiger, comme ça, qui justifie cette fameuse race des géants. Vous trouvez ça dans... Enfin, là, je reprends Victor Hugo, La légende des siècles, quand les géants étaient encore mêlés aux hommes. Donc, c'est un vers, La légende des siècles. Voilà, bon, écoutez, je vais... Oui, si on fait une piste d'analyse sur cette cosmologie que je vous ai balayée très rapidement, une cosmotechnique, hein, quelque chose qui est une conception du monde à la portée de tous finalement, hein, c'est ça qu'il a essayé de prôner Herbiger. La nouvelle physique finalement, celle de la relativité, encore plus celle de la physique quantique, n'était guère accessible et remettait par trop en cause le bon sens et Herbiger a essayé de se ramener à des phénomènes, des process connus, hein, mais même avec dans son entreprise de valves hydrauliques, là, ça l'inspirait justement sur quand il observait de l'eau plongée dans l'acier. Ses connaissances en thermodynamique de l'eau lui ont permis d'élaborer sa théorie, en fait. Donc, ouais, alors un petit mot, parce que j'ai pas mal retravaillé là-dessus. Louis Powell, c'est Jacques Bergier, donc Le Matin des Magiciens, et puis la revue Planète. Hein, le Matin des Magiciens a beaucoup fait pour populariser la théorie d'Herbiger. Hein, et donc, je vous ai parlé de cette revue Nexus, là. Qui s'appelle « Science et alternative, une information négligée par des instances médiatiques clairement liées à l'élite dirigeante hein, ». Et puis ils disent « Nous cultivons une saine paranoïa ». Alors vous savez ce que c'est la paranoïa enfin, dans le sens qu'il lui donne, et c'est marqué hein, « Nous cultivons une saine paranoïa ». Paranoïa, c'est une autre pensée. Paranoïa, noèse, la pensée. Donc nous cultivons une autre pensée, une paranoïa. C'est assez amusant de voir cette théorisation. Ça qui m'intéresse aussi, comment tous ces arguments sont théorisés. Voilà, c'est ça, cultiver une autre pensée. Et c'est une revue qui, un peu comme Pour la science, qui a plusieurs orbites mondiaux et une édition française. Vous voyez, on peut regarder un petit peu. C'est beaucoup d'ufologie, hein, une vie exogène. Hein, c'est presque du paganisme aussi. C'est une vie exogène. Hein, c'est pour ça que la race des géants, c'est quelque chose qui les intéresse. Hein, donc, c'est une vie extraterrestre. L'origine de la vie est extraterrestre. Hein, elle n'est pas, surtout pas une vérité révélée, mais une révélation, mais une vie extraterrestre. Et puis vous trouvez des choses anti-vaccination, ni Dieu ni Darwin. Je vais m'arrêter là. Et voilà, sinon je vous aurais parlé, j'en dis juste un mot, ça sera ma conclusion. Je suis désolé d'avoir fait vite comme ça. Donc, Mondes en collision, c'est quelque chose que vous trouvez vraiment, par exemple, il y a une librairie un peu ésotérique, rue Saint-Jacques, en bas de la rue Saint-Jacques, je ne sais pas si vous voyez, à droite. Vous trouvez ce livre en vitrine, hein, Mondes en collision. Et Mondes en collision, c'est intéressant parce que Velikovsky, c'est un juif ami de Freud et d'Einstein. Et lui, toute sa vie, à partir de 50 ans, quand il émigre aux États-Unis en 1940, il va non pas expliquer une origine exogène de la vie comme Herbiger, non pas faire du créationnisme de la Genèse, mais expliquer l'exode. Hein, c'est-à-dire le retour à la terre promise, pardon, plutôt. Oui, c'est ça, l'exode. L'exode. C'est-à-dire que c'est des... On pourrait dire créationnisme pour ces fondamentalistes chrétiens ou musulmans à partir du livre. Pour Velikovsky, je n'emploierai pas forcément le terme créationniste, mais il va montrer que la mer Rouge s'est séparée en deux, etc., pour laisser passer les Hébreux, qu'il y a eu le long jour de Josué pour qu'il puisse rentrer en terre promise, etc. Donc, si vous voulez, chacun trouve le créationnisme à sa porte, en quelque sorte, le créationnisme qu'il lui faut. Là, pour Velikovsky, il s'agit de justifier l'exode et de montrer que le peuple hébreu est bien arrivé en terre d'Israël. Voilà. Sur ce, je ne voulais pas insister particulièrement là-dessus, mais pour vous montrer que chaque religion trouve son créationnisme à sa porte. Et c'est pour ça le titre de ma conférence était « Les créationnismes », d'ailleurs. Parce que je vous remercie de votre attention.
Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. J'aimerais bien, avant de donner la parole au public, juste pour avoir un petit complément d'information sur le portrait type du scientifique, parce qu'on part des scientifiques au départ. Oui. Ils ont tous une formation scientifique.
Oui, ou d'ingénieur ou chercheur, souvent. Oui.
D'ingénieur souvent déjà. Et qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il chez quelqu'un qui un jour, et pourquoi, il va effectivement abandonner un peu ses fondamentaux ou les ignorer, ou s'éloigner d'eux pour donner ces théories-là?
Bon, ça c'est aussi chacun, c'est des parcours individuels, mais enfin si j'essaye de trouver, par exemple chez les ingénieurs, alors on peut parler pour les chercheurs aussi, parce qu'il y a aussi pour les chercheurs, mais à l'époque que je vous ai décrite, cette distinction n'était pas si claire, mais si on parle maintenant pour les ingénieurs, moi je vois beaucoup, je connais certains ingénieurs qui en effet ont une espèce de retour à la science aussi, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas fait la carrière de recherche forcément qu'ils souhaitaient et retrouvent un intérêt à partir de la cinquantaine, de la soixantaine pour la science et se remettent, certains, une infime minorité, à élaborer des théories alternatives, surtout qui retrouvent la science pas du tout comme elle était pendant leurs études, quoi. Et ça, on peut le pister ça, des gens comme Plaisant, dont j'ai parlé là, ce polytechnicien des années 20, on peut voir qu'ils disent mais pourquoi mes maîtres ne m'ont pas appris l'expérience de Michelson et Morlaix, enfin voilà, donc ils ne retrouvent pas la science comme il l'avait laissé lors de ses études, quoi. Donc c'est un petit peu à la fois un retour vers la science, hein, comme on peut retourner vers d'autres choses quand on arrive à un certain âge, et puis une dissonance cognitive, c'est plus la même chose, quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé, si je ne comprends pas, puis il y a une certaine prétention aussi, si je ne comprends pas, c'est que ça doit être faux, quoi. Enfin voilà, je caricature un petit peu, mais
je vais passer la parole à...
Et je réponds de manière incomplète, et je vous prie de m'excuser d'avoir fait une conférence mal proportionnée au point de vue du temps, mais j'avais mis un sujet peut-être un peu trop large, j'ai voulu vous le...
J'aimerais connaître votre point de vue sur Maurice Allais, parce qu'il a écrit un gros pavé Anisotropie, et que j'ai lu il y a très très longtemps, et dans lequel il était très virulent contre l'institution de l'école polytechnique, qui ne lui avait pas permis d'enseigner la gravitation comme il le pensait. Il était anti-gravité newtonienne, parce qu'il avait passé plusieurs mois, voire années, au fond d'une mine, avec un pendule, pour mesurer la constante de gravité. Donc, il faisait quand même des expériences scientifiques, il faisait des mesures, et...
Bon, je vais vous répondre si vous voulez. Non, mais je ne veux pas personnaliser sur Maurice Allais parce que, en fait, moi, le début de mes recherches, ça a été ça aussi. Donc, parce que j'étais étonné qu'en conseil d'administration des anciens de Polytechnique, il y ait des gens qui défendent un article de Maurice Allais qui commençait par la relativité a fait perdre un siècle à la physique, etc. Il y avait des gens il y avait des PDG de sociétés du CAC 40 qui défendaient ça autour de la table, si vous voulez, dans cet article. Donc, si vous voulez, ça m'a interpellé, quoi. Donc, en effet, c'est le départ de mes recherches, ça. Mais je veux pas, j'ai écrit un bouquin sur les ennemis de la relativité de 1905 à 2005, donc je n'ai pas voulu personnaliser non plus. Puis Maurice Allais, c'est quelqu'un que j'ai connu, donc il me serrait la main, il me disait longuement la main. Non, mais je vous donne l'exemple du personnage. Puis il disait, faut que vous, comme je fais de la vulgarisation, il disait, mais il faut que vous soyez avec nous, monsieur Moitié, etc. Enfin, il essayait de me rallier à ça. Alors vous avez raison, chez Allais, il était anti-théorie de Newton dans les années 50, c'est ça qui est étonnant. Parce que dans les années 50, plus personne ne parlait de relativité. Jean Eisenstadt parle à juste titre de l'étiage de la théorie de la relativité entre 1930 et la conquête de l'espace. Plus personne ne parle de la théorie de la relativité. Maurice Allais, en effet, il bâtit quelque chose qui est anti-newtonien dans les années 50. Et pareil, dans l'amphi Poincaré de l'ancienne école polytechnique, il tient une conférence en 56 ou 57 contre la théorie de Newton. Et moi, j'ai assisté à sa conférence de 2007, 50 ans plus tard, contre la théorie d'Einstein, dans le même amphithéâtre. Et en revanche, sur l'école polytechnique elle-même, ça a été documenté, c'est-à-dire que lui est refusé le poste de professeur d'économie à l'école polytechnique. Hein, ça a été documenté par un gars qui est un philosophe qu'on a totalement oublié, qui était un grand ami de Maurice Allais, qui s'appelle Louis Rougier, un philosophe positiviste, puis qui a un destin un peu particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin bon, et qui écrit un livre scandale à Polytechnique où il s'offusque du fait que Maurice Allais n'ait pas été nommé professeur d'économie en 58-59, et il dit que c'est un rat de cabinet ministériel de la 4e République qui a été nommé professeur d'économie, enfin bon, voilà. Donc je ne crois pas que ce soit sur l'aspect être nommé professeur de physique à Polytechnique, non, m'embêterait que cette hypothèse ait pu être envisagée, je pense.
Oui, question là.
Comptez-vous parmi les créationnistes les Américains qui se proposent de lancer une sonde ou un satellite pour vérifier justement la relativité restreinte et générale d'ailleurs?
Je sais pas, oui. Enfin, je connais pas ce projet d'expérience. Enfin, moi, à ma connaissance, la relativité générale ou restreinte est une des théories les mieux vérifiées à l'heure actuelle. Donc, des vérifications, il y en a pas mal, quoi. Donc, est-ce qu'il en faut une...
Oui, mais il y a des projets sérieux, d'Américains sérieux, qui est sur ce plan. Par ailleurs... Il faut reconnaître que la science, c'est quand même un assemblage de concepts et de théories générales et particulières d'un grand nombre de créationnistes, précisément. Copernic, Hubble, Einstein pouvaient être vus comme des créationnistes à leur époque. Et est-ce que... Donc il ne faut pas...
Non, ce que vous voulez dire,
pas
attendez,
tout mélanger.
Je retraduis.
Et Pasteur, qui a fait sa découverte, était âgé quand il a fait sa découverte. Alors, est-ce que c'était un retour d'âge malvenu ou...
hein?
Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger, facile.
C'est vous qui
mélangez. Toutes les religions sont en somme des sectes qui ont réussi, on ne parle pas des autres. Eh bien, la science, c'est la même chose, me semble-t-il. C'est un ensemble de créationnistes. Faut pas aller trop vite hein, pour critiquer les nouvelles théories et les nouvelles approches de la science. Copernic a eu une nouvelle approche de la science. On a vu certainement comme un créationniste par un grand nombre de gens, sérieux. Alors, n'êtes-vous pas, vous aussi, quelqu'un de sérieux, mais à critiquer un peu vite?
Je n'ai pas critiqué Copernic, donc...
Non, vous avez critiqué un certain nombre d'autres personnes, et vous avez fait une sorte de mise en garde. Ça peut être très mal vu, ça peut être freiner des élans, justement, des nouvelles approches scientifiques qui pourraient voir le jour, vous savez, la relativité, c'est pas certain qu'elle perdure. Aucune théorie.
Il me semble avoir commencé mon exposé comme ça, d'ailleurs.
La physique est pleine de théories qui n'ont eu qu'une courte période de validité.
Non, mais ça, bien évidemment, je cours toujours ce risque de voir... mon exposé vu comme un ruban de Möbius, c'est-à-dire qu'on me le retourne comme vous le faites, pourquoi pas. Je suis pas d'accord avec vous. D'abord, vous utilisez le terme créationniste, je pense pas que... Vous utilisez les termes dans des contextes particuliers, donc dans des contextes précis, donc... il me semble avoir essayé de l'utiliser dans un contexte précis. Ce que vous dites, comment je traduis votre question, c'est ne pas étouffer des velléités qui pourraient... C'est un peu prétentieux, mais enfin, je vous renvoie à mon livre, c'est-à-dire que j'étudie des gens qui remettent en cause de manière totalement non étayée, de manière totalement en dehors des cadres... de la science actuelle, des résultats qui ont été pas mal éprouvés par ailleurs, quoi. Donc, en effet, on peut contester cette définition que j'essaye de donner là. Certes, si vous n'êtes pas d'accord avec cette définition-là, vous allez vers ce que vous dites, évidemment. Mais j'essaye, chacun est amené à exercer son discernement, et il me semble que les exemples que j'ai donnés, avec des prolongements idéologiques que je développe dans mon livre, montrent que ce ne sont pas vraiment des gens qui ont une démarche scientifique. Oui, voilà, je le maintiens, me semble-t-il.
Oui, comme ça, je suis d'accord avec vous.
D'accord, merci.
Je réagis pour ce qui me concerne à la théorie de Hörbiger avec Hitler. Parce que, en fait, est-ce que c'est un mage pour Hitler qui aurait pu le conduire au massacre des Juifs parce que ils étaient, dans la théorie de Hörbiger, des gens opposés à la race des géants, à la race pure et tout. Est-ce que ça pourrait provenir de là ?
Non, je ne me sens pas avoir parlé d'antisémitisme chez Hörbiger lui-même. Hein, non, ça, alors là, moi, je ne vais pas rentrer dans les explications du nazisme, là, si vous voulez, parce que alors là, du réductionnisme historique, c'est ce que font Powels et Bergier, et toute cette littérature qui fleurissait à l'époque, c'est expliquer le nazisme par la magie, par l'ésotérisme, par Thulé, par... ça me paraît très réductionniste comme explication, donc est-ce qu'on peut trouver...
Oui, mais enfin, vous montrez dans votre livre plusieurs exemples où les positions alterscientifiques, hein, vous dites ça comme ça, sont soit rattachées à des idéologies d'extrême gauche ou d'extrême droite, donc et l'antisémitisme, il y a quand même... Il y a un regard et une prise de position sociale qui est extrêmement importante. On n'est pas dans la science-objet où on fait une hypothèse, on fait des expériences indépendamment de toute idéologie derrière. C'est pas du tout ça, au contraire.
Si vous me permettez, alors, juste au début de mon livre, je parle de ces théories. Parce que, par exemple, quelqu'un comme Allais, c'est pas quelqu'un d'idéologique. Hein. Ça, j'ai connu Allais. Je veux pas me l'impression de le défendre, mais c'est pas, il n'y a pas d'idéologie chez Allais. Chez Rougier, etc., ça je veux savoir. Mais mon livre, justement, il part comme ça de quelque chose qui n'est pas idéologique, chez, par exemple, l'ingénieur Allais, pour montrer que chez un ingénieur comme Vallée, qui est un ingénieur supélec qui promeut l'énergie libre, c'est mélangé assez vite à de l'idéologie. C'est-à-dire que les gens s'aigrissent, deviennent les hommes en noir de la science. C'est une expression de Powels, d'ailleurs, les hommes en noir de la science. Hein. Il la reprend et puis il donne des noms, là, carrément, les hommes en noir de la science. Donc, si vous voulez, il y a ce glissement progressif, si je puis dire, de quelque chose qui est... Au départ, des théories un peu loufoques, la théorie synergétique de Vallée ou la théorie d'Allais, qui n'est pas une théorie d'ailleurs, qui est une contestation de la relativité. Et puis chez certains, l'idéologie arrive très vite. Hein. Chez Hörbiger, c'est un peu la même chose. Vous pensez bien qu'il n'y a pas tellement d'idéologie dans ce pavé-là. J'ai pas lu en entier. Hein. Voilà, c'est l'utilisation qui en est faite après, quoi. Hein. Par exemple, chez Himmler, je l'ai cité, mais chez Powell, c'est une forme aussi... Il y a une idéologie chez Powell aussi. Hein. On la voit après. Très intéressant, Planète, c'est une espèce de religion de l'humanité, finalement. C'est l'homme tout-puissant, hein. C'est ça que nous développe la revue Planète... une espèce de religion aveugle, une foi en la technologie, une foi en la science, qui, c'est aussi un chapitre de mon livre avec le courant de Lyndon LaRouche et de Jacques Cheminade en France, faut faire attention aussi à l'hypertrophie scientiste, hein, qu'on trouve chez Powels, qu'on retrouve chez LaRouche et Cheminade, et qu'on trouve chez les fameuses Tea Party, etc. Enfin, je ne veux pas vous donner l'impression de mélanger, mais ces courants, on peut les pister de cette manière-là. Et l'hypertrophie scientiste peut être assez problématique d'un point de vue idéologique aussi. Monsieur ?
Oui, monsieur, à la lumière de votre exposé, très brillant, vous exposez les situations, des pensées qui sont contradictoires, voire même évolutive pour un même penseur, voire même un même scientifique. Il me semble que cela met en relief la précarité des jugements et des déductions. Et ça m'amène à penser ce que l'homme, en fait, je pense, est le seul, l'homme est pour répondre à ces questions, est le seul instrument pour y répondre. Alors, je crois que la précaution première est, serait de, qu'il se définisse lui-même et qu'il se connaisse. C'est pour ça que je crois que, je me rappelle cette profonde pensée de Socrate, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Et les dieux. Alors, je crois qu'il faudrait que l'homme se connaisse d'abord et connaisse son psychisme, sa pensée, comment il a évalué. Moi, je pense que l'homme a, comme en géologie, dans son mental, des strates qui sont archaïques et qui sont la résultante des peurs initiales, des peurs de l'animal. Là-dessus, se sont déposées des strates correspondantes à sa culture, à sa pensée. Alors, cela explique, à mon avis, qu'un même individu, en pleine force du raisonnement, puisse avoir, comme vous l'avez dit, je crois, certains raisonnements et certaines déductions. Et puis, à l'approche, l'âge venant, à l'approche de la mort, bah, cet homme qui a été très cartésien, très, très rigoureux, bah, à l'approche de la mort, il se tourne vers Dieu.
Oui, vers Dieu ou vers la science, c'est ce que je disais tout à l'heure, il revient à la science.
Le substrat refait surface, si vous voulez. Donc, je veux dire par là qu'il y a peut-être précarité dans toutes les déductions, quelles qu'elles soient.
Certes, là-dessus, je ne peux pas vous contester ça. ça m'amuse ce que vous dites sur des grandes peurs de l'humanité, parce que c'est un peu ce que Velikovsky décrit, d'ailleurs, ces cataclysmes, une comète est passée qui a écarté la mer Rouge, c'était des cataclysmes complètement enfouis que moi, Velikovsky, psychanalyste et médecin, je dois faire connaître à l'humanité, etc. Sont de l'inconscient collectif à enfouir ça. Mais donc pour oui, ben là-dessus, je peux être que d'accord avec vous sur le peut-être sur les. Je rebondirai en parlant des. Du discernement de chacun. Enfin, moi, j'essaye de... Justement, vous évoquez la capacité de raisonnement qu'on perdrait. Je ne crois pas, j'espère pas. Avec l'âge, je ne pense pas, même. Mais voilà, moi, j'essaye de donner... alors, en effet, on peut me retourner mon raisonnement, mais à partir du moment où on est d'accord sur une base donnée, j'essaye de vous donner... Enfin, c'est un peu prétentieux de ma part de dire ça, mais une grille de lecture de certaines choses, quoi, voilà. Si vous voulez. Et puis même, les créationnistes, c'est important de distinguer en fonction des religions. Puis même, je vais aller plus loin, il y a des créationnistes qui sont moins graves que d'autres, je dirais. Par exemple, l'université interdisciplinaire de Paris, où c'est à mon avis moins grave que certains... on ne peut pas tout mettre sur le même plan non plus. Enfin, voilà. Donc, moi, quand j'étudie ces aspects de déviationnisme scientifique, j'essaye de faire la distinction entre les choses. Alors, c'est peut-être des distinctions un peu trop queue de cerise, pour parler poliment. Mais enfin, je pense que c'est des choses qui sont importantes à étudier pour que...
Oui,
mais... Si j'ai une ambition, c'est pouvoir vous donner une grille de lecture de ces phénomènes qui, parfois... Moi, c'est des trucs assez radicaux que j'étudie, mais ils peuvent percoler de manière, finalement, assez même un peu édulcoré au plus près de chacun d'entre nous.
Il y a quand même quelque chose qui est absent dans toutes ces démarches et qu'on retrouve dans le monde scientifique, c'est toute une série de mises en œuvre et de protocoles qui permettent aux savants fous de rester fous et de ne pas nuire aux résultats scientifiques et au fonctionnement du monde scientifique, en particulier les systèmes de référie, toutes ces... C'est très important, parce que c'est-à-dire que lorsqu'un résultat est mis sur le marché, entre guillemets, eh bien, il y a toute une série... Le monde scientifique s'en empare et est capable de le critiquer, d'externaliser la pensée et l'intuition et le côté subjectif du chercheur pour finalement se réapproprier. Si c'est, quand c'est mauvais, c'est éjecté. Alors que là, on a quand même des personnes qui sont isolées, qui fonctionnent toutes seules, qui veulent de la reconnaissance
ou dans des cercles créationnistes.
Indépendamment d'un système de référis et de persas, c'est très important.
C'est un peu ce que je définis en départ, c'est-à-dire l'erreur scientifique, ça existe, l'erreur scientifique, bien évidemment, mais c'est la persévérance aussi, parfois, qui est... Par exemple, les rayons N, tout le monde, je ne sais pas si vous connaissez les rayons N, 1903, 1904, professeur Bondelon de Lot à Nancy, etc. Bon, Il y a un Américain qui s'appelle Wood qui lui démonte son truc, un peu comme le... comment il s'appelle le gars des avions renifleurs, Horowitz du CEA démontera l'affaire des avions renifleurs exactement de la même manière, avec le même procédé d'ailleurs. Mais tout ça pour vous dire que Blondelot, c'était un scientifique de grande valeur. Une fois qu'on lui a démontré que c'était n'importe quoi, ces rayons N, il a abandonné cette idée. Alors après, il y a des gradations. Quelqu'un comme Jacques Benveniste, la mémoire de l'eau, il a beaucoup... Il s'est beaucoup attaché à cette idée aussi. Il a vraiment peut-être considéré même qu'il en est mort. Enfin bon. D'un autre côté, y avait-il de l'idéologie ? Non. Enfin, je pense pas que l'homéopathie ce soit de l'idéologie, moi. Mais bon. C'est pour ça qu'il y a l'erreur scientifique, c'est une chose, la persévérance dans l'erreur, comme Benveniste, ça c'est déjà autre chose. Quand vous mêlez ça avec de l'idéologie, c'est une troisième chose encore. Hein, donc, excusez-moi, je trace un peu à la grosse là, mais tout ceci n'est pas totalement délimité. Mais vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Quand les systèmes jouent et que les gens s'y plient, on rentre pas dans ce genre d'erreur là.
Dans les années 60 à 70. Powells a fait son bouquin Le matin des magiciens. J'ai pas été scientifique du tout, j'ai été commercial. Mais tous mes copains qui étaient scientifiques comme moi l'ont lu et ont juré qu'à partir de ce moment-là, ils exigeraient de leur maître une vulgarisation profonde et normale. Alors qu'avant, il n'y avait pratiquement pas de vulgarisation. Il y avait un flou, il y avait un ésotérisme particulier. Ensuite, il y aura, en 67, le bouquin de Marcus sur les héritiers, et qui déclenchera, même en 65, pardon, c'est 65, aux États-Unis, qui déclenchera déjà une révolte étudiante. Et ensuite, il sera lu en France. On aura mai 68 qui arrivera. Il faut se replacer à cette époque-là.
Oui, non, mais attendez, je suis. Alors, sur le matin des magiciens, d'abord, là aussi, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Enfin, je veux dire, ça se lit de manière encore très agréable, le matin des magiciens. Moi, je me suis replongé dedans. Si on ne veut pas faire de science, enfin, je veux dire, c'est très agréable à lire. Hein. Alors, sur Mondes en collision, tiens, de Velikovsky, c'est Carl Sagan. Tiens, Carl Sagan a passé beaucoup de temps de sa vie à combattre Velikovsky. Hein. Et alors, je ne sais plus qui citait cet exemple, c'est ce que vous me dites, qui me fait penser là, des astronomes. Parce que, alors là, Velikovsky, c'est l'as pour mélanger, ça va de la géologie, l'archéologie, l'histoire, l'astronomie, il y a tout. Hein. Alors vraiment, c'est holiste là. Et il paraît que des astronomes disaient, au point de vue astronomie, c'est complètement nul, mais alors en archéologie, j'ai trouvé ça vraiment génial, ça m'a appris plein de choses. Et des archéologues disaient l'inverse, quoi. En astronomie, c'est pas mal, je savais pas tout ça. Donc si vous voulez, voilà, chacun trouve midi à sa pas à sa porte justement, et c'est aussi un peu le risque de ces livres-là. Hein. Il faut savoir que ça a été publié chez un premier éditeur, et là il y a eu une levée de bouclier. C'est un éditeur qui faisait du scientifique. Hein. Il y a eu une levée de bouclier de chercheurs américains, ce qui fait que l'éditeur n'a pas voulu se brouiller de sa communauté et ça a été réédité chez un autre éditeur. Quant à la vulgarisation, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. L'histoire de la vulgarisation, on peut la faire remonter à assez longtemps. Mais même Auguste Comte, que je cite là... Auguste Comte aussi, il s'oppose à la science officielle, d'une certaine manière. Chez Auguste Comte, il s'oppose à la science... il s'oppose à la science de son époque, aux nouvelles théories. Il considère que bien vulgariser la science, c'est mieux que d'être un chercheur en mathématiques de haut niveau. Il s'oppose à Liouville. Il veut être professeur à l'école polytechnique à la place de Liouville. Si vous voulez, il y a aussi cette ambiguïté que le vulgarisateur se croit aussi tout puissant par rapport, parce qu'il connaît tout aussi, surtout, quoi, hein, des clartés de tout, hein, disait Auguste Comte en paraphrasant Molière. Hein, donc, enfin voilà, donc je veux pas compliquer le sujet, mais chaque. trouvé un certain nombre de choses que j'ai essayé de détailler, voilà, même si le sujet bien, est parfois un peu...
Eh bien, merci. C'est vrai que le sujet est long et très, très trié. Merci. Merci pour cette conférence. Donc, je rappelle les deux livres qui sont proposés ici. Donc, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour les rayons cosmiques à haute énergie.